bonjour à tous. Je vous remercie, et notamment l'Association des œnologues de Bordeaux, de m'avoir invité à cette matinée technique qui a été enrichissante pour moi-même en vous écoutant tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression aromatique des rosés et des liens avec la couleur. Et donc, je tenais quand même, en introduction de tout cela, vous parler du succès, notamment, donc, effectivement, des vins rosés qu'on connaît. Le rosé voit un grand succès, mais ce n'est pas le vin rosé en général, mais plutôt les vins rosés avec des couleurs, des goûts, des équilibres différents, avec une large diversité donc, par rapport aux couleurs, aux arômes. Également, donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que cette vague de succès du rosé peut être due à plusieurs hypothèses, et des sociologues, des spécialistes en marketing se penchent là-dessus et s'interrogent par rapport à tout cela et émettent des hypothèses comme quoi c'est un vin simple, un vin décalé, un vin avec une couleur qui est tendre, affectueuse, donc, et qui est dans l'air du temps, qui est dans l'air du moment, pas une simple mode très très ponctuelle. On est dans le plaisir immédiat, en tout cas, il nous parle comme cela de nos vins rosés à tous, même si je suis plutôt à Bordeaux et que, avant tout, vous travaillez pour le vin rouge ou le vin blanc. Voilà, je tenais en introduction à parler de cela et à la progression donc, de la consommation, notamment en grande distribution de ces vins qui passent de 9% à 26%. Et cela, ils sont passés en 20 ans, bien sûr. Et il faut avoir aussi en tête toute l'amélioration qualitative qu'il y a eu aussi pour que les vins rosés soient enfin des vrais vins maintenant. Donc, avec cette introduction, je voulais prendre 5 minutes par rapport à ça. Je vais vous revenir à mon sujet et parler donc notamment de l'influence de la couleur sur le profil olfactif des vins rosés, mais également vous faire un panorama des vins rosés du monde et aborder la perception de la couleur des vins rosés français et de Provence par les consommateurs. Donc, par rapport à l'influence de la couleur sur les profils olfactifs des vins, il est possible de déguster de différentes façons ces vins rosés selon l'objectif recherché. Effectivement, quand on se trouve dans les concours de vin, dans des dégustations très commerciales ou des tests consommateurs, on va avoir envie d'avoir un accès immédiat à la couleur et faire cette dégustation en verre blanc, bien entendu. Par contre, quand on va aborder la technique, et donc c'est ce que disait aussi M. Barbe ce matin, on va se placer en utilisant des verres noirs pour s'affranchir donc, de l'influence de cette couleur sur l'analyse qu'on va avoir descriptive du vin. Donc, et de nombreux travaux de recherche ont été faits, je cite Jim Moreau, MacLeod, mais il y en a bien d'autres encore là-dessus sur ce sujet-là. Je vais prendre ce matin donc l'exemple qu'on a eu au Centre du Rosé où on a cherché à générer du vocabulaire adapté à la dégustation des vins rosés. En effet, il y a 10 ans de cela, quand on prenait un vin rosé qui était pâle, on pouvait emprunter des mots qui appartenaient à l'univers des vins blancs. Tandis que si on prenait un vin rosé beaucoup plus intense, on allait emprunter du vocabulaire qui appartenait à l'univers des vins rouges. Il n'y avait pas un univers spécifique au vin rosé. Donc on a généré du vocabulaire, on a pris pour cela des personnes candides au niveau sensoriel, mais qui avaient été testées et qui avaient été jugées très sensibles au niveau sensoriel, on a pris des personnes très sensibles au niveau sensoriel, mais qui étaient candides en matière de vin pour qu'elles n'aient pas d'a priori. On a pris une vingtaine de vins rosés très différents et on a choisi de leur demander de générer du vocabulaire et ces vins étaient placés en verre blanc. Donc de ce fait, elles avaient un accès direct à la couleur. Et on peut se rendre compte en observant donc, la roue des odeurs que vous avez devant vous que la majorité des descripteurs ont des couleurs qui vont du rose à l'orange et qui rappellent complètement la couleur des vins rosés qui ont été testés à ce moment-là. En plus de cela, donc, on peut observer qu'il y a sur les 13 descripteurs sélectionnés, 9 descripteurs qui sont des fruits. Donc, ce sont des vins rosés de Provence, dans cet exemple-là, avec donc, des arômes très fruités également. Donc, on peut faire un lien par cette expérience-là entre la couleur et les arômes, notamment des vins rosés où on a des couleurs de rose, jaune et orange, alors jaune ou blanc taché comme on a en Provence. Voilà ce que l'on peut montrer par cet exemple. Alors, ce qu'il faut voir là, ce travail-là serait à refaire pour d'autres régions viticoles ou d'autres pays viticoles où il faudrait générer du vocabulaire et pouvoir observer différentes choses. Maintenant, un travail qui était beaucoup plus accessible sur le moment, c'était de travailler sur la couleur notamment des vins rosés du monde et également sur les analyses chimiques simples avant de travailler sur toute la partie aromatique. Et donc, on a eu la chance de pouvoir travailler sur une collection qui était fournie par l'Union française des œnologues, 1200 échantillons analysés, donc les années 2004 et 2005, et donc différents pays représentés. On a 85% du millésime 2003, 19 pays donc représentés en 2004, et en 2005, 27 pays représentés, donc 96% qui viennent du millésime 2004. Donc, on a fait des analyses qui étaient à la fois des analyses de couleurs, qui étaient de la spectrophotométrie, de la chromamétrie, mais également des analyses en utilisant un nuancier papier tel que les peintres peuvent l'utiliser, et également des analyses chimiques classiques. Donc, les résultats ont été compilés, on a fait des moyennes entre les millésimes 2003 et 2004, et donc on peut observer par exemple la couleur rouge A, avec une moyenne de 10,3, mais on se rend compte surtout qu'il y a une grande variation, 58,5% de variation sur ce paramètre. Il y a une très grande variabilité de la couleur des vins rosés étudiés. On peut faire le même constat sur les anthocyanes ou l'indice des polyphénols totaux, par exemple. Donc, une autre façon de représenter cette grande variabilité de couleur de ces 1200 échantillons, c'est de le reporter donc sur le nuancier papier national et de constater ce grand nuage de points. Donc là, effectivement, l'effet millésime est masqué puisqu'on a pris des moyennes des millésimes 2003 et 2004, mais par contre, on peut travailler sur l'effet de l'origine et pouvoir observer des différences statistiques sur notamment toutes les mesures, mais encore plus facilement, de façon, j'ai envie de dire, plus démonstrative, sur les couleurs. Donc parmi les 29 pays qu'on vous présente, mais également les 9 régions françaises. Alors là, on peut se rendre compte sur ce graphe. À gauche, vous avez les noms des pays. Ensuite, la deuxième colonne, vous avez le nombre de vins analysés. Ensuite, vous avez les moyennes. Puis enfin, les groupes en fonction de l'homogénéité ou non. Et on peut se rendre compte donc, que la France, qui est très représentée en nombre d'échantillons, 915, se situe dans la moyenne de cette couleur rouge que je vous présente là sur ce graphe. Hein, on regarde les couleurs par pays. Et on peut se rendre compte qu'il y a un gradient de couleurs qu'on va voir au nord des vignobles, en couleur faible, en A faible ici, 1,77, l'Allemagne 2,9, la Suisse 3,3, on a un A faible, tandis que par exemple si on prend l'Espagne que je trouve ou la Grèce au fin fond du graphe, on se rend compte que la couleur rouge est très intense. Donc on va avoir, en fonction qu'on se trouve dans les vignobles septentrionaux ou méridionaux, un A qui va être faible au nord et un A qui va être fort vers le sud. On peut représenter ça de façon beaucoup plus simple, et là j'ai retenu que les pays qui étaient les plus représentés. Et on a l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche qui vont être avec des couleurs très très pâles, très saumon très pâle, tandis qu'ensuite on a la France et le Portugal au centre, et enfin des pays comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie, avec des intensités colorantes très marquées. Donc par rapport à ça, bien sûr, c'est une moyenne. Donc on va tasser en quelque sorte les résultats puisqu'on fait une moyenne. Et on peut se rendre compte que si on regarde par exemple l'Italie qui est classée comme très colorée, en fonction certainement des régions de l'Italie, des trois grandes régions productrices de rosé, on va avoir là aussi une large hétérogénéité de ces couleurs. Par contre, d'autres pays comme l'Allemagne vont montrer une grande homogénéité de ces couleurs. Les points sont superposés. Ce n'est pas que deux vins allemands, mais c'est aussi que chacun des 13 vins allemands qui étaient analysés sont les uns sur les autres. Voilà, on peut le représenter aussi d'une autre façon en montrant ce gradient de couleurs du nord au sud en observant donc l'Europe par exemple. On peut faire ce même exercice en prenant les régions françaises, et là peut-être ça va encore plus vous intéresser, puisqu'on va regarder les différentes régions, et on peut regarder Bordeaux, où se trouve Bordeaux. Ben, par rapport à la couleur rouge, il est possible de constater des couleurs intenses de rouge, donc avec une moyenne de 14. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les Bordeaux vont être deux fois plus intenses, par exemple, que les Provences. On a dissocié les Bordeaux des Clairets et on se rend compte que les Clairets sont encore plus soutenus, bien évidemment, que vos Bordeaux rosés. Un autre fait intéressant, c'est de voir que les sud-ouest également ont des couleurs rouges intenses. Donc on peut le représenter à nouveau sur ce nuancier papier parce que c'est très visible. Attention danger, ce sont des moyennes, donc parfois il y a des écarts par rapport à cette moyenne. On se rend compte que la Provence est extrêmement pâle et que par contre Sud-Ouest et Bordeaux sont très proches et vont être beaucoup plus colorés. Donc on peut retravailler cette présentation en montrant, en faisant un tour de France. Et puis également, on peut s'interroger sur le fond de tout ça, des cépages différents, des techniques différentes. On voit qu'il y a un petit village gaulois, non, ce n'est pas un village gaulois, c'est la Provence, qui est une exception à cet endroit-là et qui est très pâle. Peut-être par le terroir et certains de ces cépages, le Cinsault et le Tibourin, mais aussi par la technologie donc acquise et qui souhaite donc élaborer des vins rosés très pâles. Et quand on revient vers le sud-ouest et Bordeaux, entre les Clairets et les Bordeaux rosés, on se rend compte qu'on est plus soutenu, et peut-être plus soutenu aussi en raison des différents cépages que vous avez, comme le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, qui peuvent apporter ces colorations différentes. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce travail sur le panorama des rosés nous a montré cette diversité, notamment de couleurs, et nous a fait beaucoup travailler aussi sur des outils adaptés pour pouvoir parler et faire parler de la couleur des vins rosés. Et donc, si vous le souhaitez, si vous avez envie de travailler en partenariat avec nous sur ce genre d'outils, on serait bien évidemment partant. Et donc, on a développé différents nuanciers que vous devez connaître. Voilà, on peut également, alors là je dévie par rapport à mon propos de départ, mais on peut regarder les degrés par région et notamment regarder qu'est-ce qu'il en est des Bordeaux rosés, où ils se situent. Avec les 46 échantillons qu'on a, ils sont à 12,5 en moyenne de degrés d'alcool, donc un degré très moyen par rapport aux autres régions. On voit qu'ils sont au centre du tableau. Par contre, on a donc les Clairets qui proposent aussi un degré d'alcool de 12,6. On peut regarder également les pH donc, de ces vins, notamment des Bordeaux, et se rendre compte que ce pH est assez élevé par rapport à d'autres régions viticoles. Et également, également les tirer aussi. Donc on peut supposer que les macérations qui sont assez longues et les pratiques techniques donc, utilisées à Bordeaux font qu'il y a une extraction du potassium important et que du coup les pH sont plus élevés que d'autres régions. Mais c'est quand même intéressant de voir où vous vous situez par rapport à tout le groupe donc, des vins étudiés. On peut donc confirmer ou infirmer ce que je disais en montrant des acides tartriques très bas pour les tirés et pour les bordeaux rosés. Donc ça confirme l'hypothèse émise. Voilà. Et également, par contre, vous gardez quand même une certaine fraîcheur dans vos bordeaux rosés de par le fait qu'il y a de l'acide malique dans vos rosés. Et ça peut être quelque chose d'intéressant pour garder un équilibre dans vos rosés. Voilà, donc, pardon, on peut observer par contre que pour les clairés, on a moins d'acide malique, et cela est peut-être dû aussi par le fait que dans les échantillonnages qu'on avait, certains d'entre eux avaient fait la malo à ce moment-là, à l'époque. Je ne dis pas que maintenant, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais aborder la troisième partie de l'intervention et vous parler de la perception de la couleur des vins rosés donc, par les consommateurs. Ça a été un échantillonnage, donc on a proposé ces cinq couleurs que vous observez devant vous. Par rapport à la qualité des couleurs, je pense que pour les couleurs intenses, on aurait pu faire mieux, effectivement. D'autre part, on a proposé à ces consommateurs, on leur a demandé est-ce que vous aimez ou est-ce que vous aimez beaucoup cette couleur. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis. Et il se trouve que par rapport à cette étude, donc c'est en France, là c'est pas par rapport à uniquement la Provence, la moitié des consommateurs aiment une couleur pâle et très peu, alors une couleur pâle qui va se situer entre la couleur liquide très claire pomelo ou saumon, mais peu apprécient la couleur foncée. Alors, c'est une seule enquête sur juste 1000 consommateurs. Il y aurait du travail à faire encore pour infirmer ou non ceci. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de toute la richesse qu'on a des couleurs, des différentes couleurs des rosés, et que peut-être il y aurait eu un travail à faire en proposant des couleurs un peu plus intermédiaires, framboise claire au lieu d'être framboise intense, ou cerise claire au lieu d'être cerise intense. Voilà, tout ça pour dire, j'espère ne pas vous vexer. ensuite, on a aussi donc regardé la perception de la couleur. Alors là, je m'excuse, sur les vins rosés de Provence. Et par rapport à ces mêmes couleurs, on leur a demandé quelle était la couleur la plus appropriée pour un vin de Provence. C'était l'intérêt qu'on y portait. Et il se trouve que c'est la couleur pâle intermédiaire qui remporte les suffrages pour plus d'un consommateur sur quatre. Donc cette couleur saumon. Voilà. Pour les rosés de Provence, les couleurs très soutenues étaient complètement rejetées. Il y a quand même 14% de pas d'opinion, ne sait pas, hein, aussi, à prendre en compte dans ces résultats. Autre graphe, c'est l'attente et la projection du consommateur suivant la couleur. Donc on a repris les quatre couleurs, donc le cerise, le saumon, le pomelo et la litchi très pâle. Et on a regardé qu'est-ce qu'il en était au niveau de l'acidité, du fruité, de la mer et du plaisir que pourrait avoir le consommateur donc, en voyant la couleur de ses rosés. Quelle projection il faisait en observant la couleur pour le goût du rosé. Et donc, il se trouve que la couleur laisse attendre, bien sûr, aux consommateurs des goûts différents. Il n'y a pas de différence statistique au niveau de l'acidité. Il y en a pour le fruité, l'amer et le plaisir. Et ce qu'on peut constater, c'est que les trois couleurs les plus, les plus intermédiaires ou intenses suggèrent aux consommateurs par ailleurs, ça suggère peu d'amertume, donc peut-être c'est en relation avec l'idée qu'ils se font que c'est fruité, et par contre, leur donne du plaisir les deux couleurs intermédiaires B et C. Voilà. Donc ça, c'est un résultat, mais peut-être qu'il faut fouiller encore plus et proposer d'autres palettes de couleurs. Donc, ce que j'ai envie de dire là, à cette heure maintenant, après vous avoir dit que les consommateurs préféraient les couleurs pâles et intermédiaires, je vais me contredire et vous dire qu'il faut garder et préserver cette large diversité que je vous ai montrée de couleurs, d'analyse chimique des vins rosés. Et j'espère un jour pouvoir aussi montrer au niveau des arômes cette large diversité, et que c'est vraiment une richesse qu'il faut préserver. Il ne faut pas faire un seul rosé unique qui se rapprocherait plus du coup du soda ou du Coca-Cola que de nos rosés qui sont aussi des vins rosés de terroir, même si dans la salle vous allez me dire que vous n'y croyez pas. Je crois que j'ai quelques études sous le coude pour vous montrer le contraire. Les vins rosés sont aussi des vins de terroir. On l'a montré au centre du rosé.